Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Pour le mois d'août, le pape invite à prier pour les petits et moyens entrepreneurs durement touchés par la crise économique et sociale. Le pape qui sera du 13 au 15 septembre prochain au Kazakhstan. Le programme de ce voyage a été rendu public mardi par le bureau de presse du Saint-Siège. Au Kenya, ONG et société civile appellent à un scrutin pacifique et transparent. Plus des détails dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira notamment en République démocratique du Congo où un nouveau bilan officiel des manifestations anti-ONU dans l'est du pays faisait état d'au moins 36 morts. À tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Pour le mois d'août, le pape invite à prier pour les petits et moyens entrepreneurs. Dans un message vidéo, le pape rappelle qu'à la suite de la pandémie et des guerres, le monde est confronté à une grave crise socio-économique. Mais nous ne nous rendons pas encore parfaitement compte. Le Saint-Père souligne que parmi les plus durement touchés, on trouve les petits et moyens entrepreneurs. Ceux qui travaillent dans les commerces, l'artisanat, le nettoyage, les transports et tant d'autres secteurs encore. Tous consacrent une énorme capacité créative à changer le cours des choses en partant du bas, d'où suis-je toujours la meilleure créativité. Prions pour que les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale, puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leurs activités au service des communautés où ils vivent, a fait savoir le pape François dans son intention du mois d'août. Et toujours concernant le Saint-Père au lendemain de l'annonce de son voyage apostolique au Kazakhstan, prévu du 13 au 16 septembre prochain, le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé mardi le programme de voyage. Le pape s'y rend pour participer au 7e congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles autour du thème « Le rôle des responsables des religions mondiales et traditionnelles dans le développement socio-spirituel de l'humanité dans la période post-pandémique ». François débutera son voyage en Asie centrale par une rencontre avec le président de la République kazakh le 13 septembre au soir, ainsi qu'avec les autorités et le corps diplomatique de l'ancienne République soviétique. Le jeudi 15 septembre, dernier jour du voyage, François rencontrera d'abord les évêques, prêtres, diacres, religieuses et religieux présents au congrès en la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Nour-Sultane. Commençons l'actualité sociopolitique africaine par le Kenya, où ONG et société civile ont appelé mardi à des élections pacifiques et transparentes à une semaine d'une présidentielle à fort enjeu pour ce pays d'Afrique de l'Est, plusieurs fois meurtri par des violences et des contentieux post-électoraux. Plus de 22 millions d'électeurs se rendront aux urnes mardi 9 août prochain pour désigner leur prochain président pour les 5 années à venir, ainsi que des centaines de parlementaires et quelques 1500 élus locaux. Dans le même registre, une des inquiétudes soulevées mardi par Human Rights Watch est liée à l'impunité de la police contre les abus lors de précédentes élections en 2017 qui augmenterait le risque que des agents abusent de leur pouvoir lors du scrutin de la semaine prochaine. Les autorités ne sont pas parvenues ni à enquêter sur les accusations de violence policière ni à mettre en place des réformes. En République démocratique du Congo, selon un bilan officiel provisoire communiqué mardi par les autorités, ce sont au moins 4 casques bleus et 32 manifestants qui ont été tués en une semaine des manifestations contre la mission des Nations Unies accusée d'inefficacité dans la lutte contre la centaine des groupes armés dans plusieurs villes de l'est du pays. Les précisions d'Évariste Chiteya.
Ces chiffres ont été donnés par une commission gouvernementale spéciale qui a établi un bilan lourd d'au moins 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 morts à Kanyabaonga et 3 morts à Kasindi, a indiqué le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais à l'issue d'une réunion de crise. Outre les 36 victimes, on compte au moins 170 personnes blessées. Le porte-parole du gouvernement congolais a notamment affirmé que ces incidents graves et outrageants ont porté atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo dans les postes frontaliers à Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda. Dans un échange téléphonique avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le président congolais Félix Tshisekedi a rappelé que le retrait du mouvement du 23 mars M23 est une condition nécessaire à la baisse de la tension, a déclaré le porte-parole du gouvernement.
Le président nigérien Mohamed Bazoum a reçu mardi le nouveau commandant de la force française Barkhane, le général Bruno Baraz, venu le remercier pour le soutien du Niger à la France, a indiqué un communiqué de la présidence à Niamey. Nous quittons le Mali et nous avons besoin de sortir énormément de matériel que nous avons amassé pendant 8 années d'opération dans ce pays, a dit le général Baraz. Selon lui, la seule solution pour le faire, c'était de passer par le Niger et nous souhaitions remercier officiellement le président de la République pour son appui dans cette réarticulation. Au Sénégal, le décompte des voix se poursuivait mardi après les élections législatives de dimanche que les camps du pouvoir et de l'opposition revendiquent chacun avoir remporté. Direction la Guinée, deux leaders d'un collectif ayant organisé des manifestations qui ont fait au moins 5 morts ont été inculpés et incarcérés après leur passage lundi devant un juge d'instruction d'un tribunal de la proche banlieue de Conakry, a indiqué le ministre de la Justice guinéenne. En Libye, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, a terminé son mandat, a indiqué son bureau lundi, sans annoncer de remplacement, alors que la mission d'appui des Nations Unies en Libye vient d'être renouvelée pour 3 mois. À Madagascar, des premières arrestations ont eu lieu après le massacre de 32 personnes dans le village d'Ambolo-Tarakeli par des vols de bétail la semaine dernière, a indiqué la gendarmerie lundi. Retour dans cette édition sur la célébration de la Journée internationale de la femme africaine qui a eu lieu dimanche 31 juillet. Décrétée en 1974 à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui était auparavant la Conférence des femmes africaines. C'est le 31 juillet 1962 que des femmes de tout le continent africain ont convergé vers la Tanzanie pour créer cette première organisation panafricaine. Cette année, la journée a été célébrée sur fond des défis à relever. Développement social et économique, violence, insécurité alimentaire, éducation et emploi. Myriam Sandouno en a fait le point avec Kadiatou Sila Monson, fondatrice de l'ONG Audacity for Africa en France.
Je constate effectivement des choses, des avancées. Par exemple, quand on voit des femmes aujourd'hui qui occupent des postes à grande responsabilité. Nous avons des femmes qui occupent des fonctions très importantes. Donc, il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire, en fait. Je pense que nous, les femmes, nous devons nous appuyer sur les énergies des femmes africaines. Pour citer une femme nigérienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Afsat Abiola, qui est la présidente de Women Africa, qui est nigériane. Il y a des batailles continuel. Il faut toujours se battre, en fait, sur le terrain. Il faut pas abandonner. On peut pas parler d'équilibre 50-50 aujourd'hui entre les femmes et les hommes. C'est pas encore le cas. Sincèrement, c'est pas encore le cas, quel que soit, on va dire, le domaine que vous explorez, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie de l'entreprise, que ce soit dans les engagements associatifs. Je dirais qu'il y a encore du chemin à faire, mais il y a des avancées qu'il faut saluer et continuer à se battre sur le terrain.
Quels sont les obstacles et les barrières que les femmes rencontrent, selon vous, dans le cadre de leur émancipation et à quoi ils sont liés?
Sur les sujets de l'émancipation, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a souvent des freins qui nous bloquent, qui nous empêchent de vraiment déployer notre audace, nos envies. Ces freins sont culturels. Il y a souvent dans certains pays où on parle par exemple de mariage précoce. Quand vous mariez une fille précocement, finalement vous mettez un frein à son éducation. Elle se retrouve dans un cadre où elle est tout de suite mère, elle doit s'occuper de ses enfants et elle a arrêté sa carrière, son éducation. Vous voyez bien que, effectivement, pour elle, c'est un blocage finalement à son évolution. Donc ça, c'est les freins, c'est les biais culturels que nous avons beaucoup dans pas mal de pays. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'activistes qui se battent sur le terrain pour justement faire reculer ces mariages précoces. Il y a aussi qui sont, on va dire, poussés par la communauté humaine en fonction d'un pays qui existe. C'est des freins à l'émancipation parce que qui dit émancipation, c'est avoir des choix. Mais si on vous arrête dans vos choix d'études, d'éducation, etc., on voit bien là très clairement que pour nos jeunes filles, c'est des situations rédhibitoires qui les empêchent du coup d'avancer.
Quels sont aujourd'hui les défis à relever ?
Pour ma part, le défi le plus important pour moi, c'est le défi de l'éducation. Comme disait, on aime bien paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde et pour le transformer. Et je pense que le gros défi de l'éducation de nos enfants, de nos jeunes filles, est fondamental. Parce qu'une femme africaine qui est un peu le socle de la communauté, qui est un peu le vecteur du développement du village, de la ville, de son quartier, on le sait, elle est reconnue pour ça. C'est elle qui est au champ, c'est elle qui travaille, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui participe à l'évolution de sa communauté. Une femme éduquée qui a l'instruction et qui peut, en grandissant, se développer, apporter sa contribution à ses enfants, à son mari, à son foyer, pour moi, c'est le plus gros défi aujourd'hui. Vous voyez que on a de nombreux défis à relever. On a le défi de l'employabilité des jeunes à relever, des jeunes femmes à relever aujourd'hui en Afrique, puisque nous savons tous aussi que chaque année, vous avez 20 millions de jeunes, là, de manière globale, qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas de travail, puisque les seuls emplois disponibles, on va dire salariés, représentent aujourd'hui, selon les chiffres de la Banque mondiale, c'est à peu près entre 4 et 5 millions d'emplois disponibles. Donc, il va falloir les 15 millions restants leur donner du travail. Donc, oui, il y a énormément de défis. Mais le défi, si je devais citer un défi vraiment important pour nous, femmes africaines, c'est vraiment le défi de l'éducation.
C'était Kadiatou Sila Monson, fondatrice de l'ONG Audacity for Africa en France. Elle répondait aux questions de Myriam Sandouno. Signalons aussi que l'histoire de la journée mondiale de la femme africaine remonte à un peu plus d'un demi-siècle. Le 31 juin 1962, alors que l'Afrique se libère à peine de l'emprise coloniale, des femmes africaines venues de tout le continent se réunissaient pour la première fois à Dar es Salaam, en Tanzanie, et créent l'Organisation panafricaine des femmes. Le but était d'unir leurs forces et de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et son émancipation.
Vaccin pour tous.
Le regard des populations centrafricaines sur le vaccin contre la COVID-19, c'est de cela qu'il est question dans notre minute consacrée à la campagne Vaccin pour tous. Écoutons à ce sujet Dr. Franck Ouandjanoué, médecin pédiatre, chef du projet Kouam à l'hôpital pédiatrique de Bangui, en Centrafrique.
Avec le contexte dans lequel cette pathologie est née, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de préjugés. Et donc, la population se dit que c'est un vaccin qui est fait à dessein ou des objectifs non avoués, que c'est un vaccin qui est fabriqué trop vite et donc pas trop rassurant, que c'est un vaccin qui peut même entraîner d'autres conséquences graves telles que l'infertilité ou la mort même de celui qui l'aurait reçu quelques années après. Comment réduire ces préjugés sur le vaccin ? Il faut absolument communiquer pour un changement de comportement. Il faut expliquer à la population l'urgence mondiale, la pandémie à laquelle le monde était confronté et les incidences économiques. Et donc, il fallait trouver une solution. Il faut expliquer que le vaccin a subi les étapes scientifiques requises et donc devrait protéger ceux qui le recevront. Donc, il faut sensibiliser pour faciliter l'adhésion et pour réduire les préjugés à défaut de les éliminer.
Docteur Franck Ouandjanoué, médecin pédiatre, chef du projet Kouam à l'hôpital pédiatrique de Bangui, en Centrafrique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mes auditeurs, ainsi se referme cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.